Alors on est dans l'évangile de Marc. Marc qui nous relate la vie de Jésus. Et pour être même plus précis, qui nous interpelle, mais c'est qui est Jésus ? Alors il nous présente un portrait, hein, ça fait plusieurs semaines que on parcourt Marc sur cette question qui est Jésus ? Alors pour ceux qui ont ces Bibles-là, hein, on est à la page 644-645. Alors dans la portion du texte de ce matin, Jésus fait face à l'opposition. Petit à petit, ça prend de l'ampleur. Des voix s'élèvent, et notamment avec les chefs religieux de l'époque, que sont les pharisiens. Mais sans plus attendre, je vous propose de lire les deux événements qui se suivent, deux événements qui vont évoquer le même sujet, l'un des sujets des 10 commandements, le jour du repos, on a parlé de repos tout à l'heure, le sabbat pour les juifs, ce jour de la semaine mis à part. Et voilà, Jésus va vivre deux incidents et qui va opposer justement ces pharisiens à l'autorité de Jésus. Alors on est dans Marc au chapitre 2, à partir du verset 23. Marc 2, à partir du verset 23. Un jour de sabbat, donc un jour de repos, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiathar, à manger les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue et il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ? Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère, peiné de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Alors on l'a vu hein, dans ce texte, il y a un peu deux incidents autour de la question du sabbat, de Jésus et des pharisiens. Alors le sabbat c'est un sujet sensible, un sujet riche dans la Bible, le sujet d'un jour de repos mis à part. Et avec ce passage on est loin de mesurer, d'étudier, de saisir tout ce que ça concerne, cette question du jour de repos, parce que ça parcourt une grande partie de l'Écriture. On a déjà vu certains versets ce matin, on en verra encore d'autres tout à l'heure sur cette question du repos, mais c'est un sujet profond, et là, loin de moi de voir tous les détails de ce que cela veut impliquer pour nous. Mais néanmoins, Jésus ici donne quelques éléments précieux et quelques clés qui me paraît important de méditer ce matin, et qui nous interroge sur notre façon de vivre le repos de façon large. Alors voilà comment je résumerais l'enseignement de ce passage. En fait, nos cœurs ont besoin de la venue de Christ, la venue de Jésus pour comprendre ce vrai repos, pour comprendre cette vraie liberté, ces vraies priorités du repos que Dieu nous appelle, auquel Dieu veut nous voir aspirer. C'est la venue de Christ, voilà, nous donne des clés pour comprendre cette liberté et ces priorités du repos qu'il souhaite nous donner. Alors je sais pas vous, mais moi mon jour de repos, alors c'est la particularité de mon ministère, je sais pas, c'est le mercredi. Et je dois vous dire que je suis pas fier de la manière dont je vis ce temps de repos. Parlez-en à Ruth, mon épouse, hein, c'est loin d'être gagné. Alors c'est un jour pour lequel je ne me cesse pas de me tracasser. Parce que à la fin de la journée, je me dis, est-ce que j'ai suffisamment fait quelque chose pour en tirer une satisfaction, un bienfait, un repos, une paix? Et c'est vrai que mon mercredi, j'essaye de caser tout ce que j'ai pas réussi à mettre dans le reste de ma semaine. Ranger, trier, bricoler, bouquiner, s'agiter, essayer d'avancer, réparer, bref. Prendre du temps avec les enfants, faire un peu d'activité sportive. J'en profite aussi pour caser un entretien ou un échange ou une visite. Tout en voulant en même temps casser la routine des six autres jours, qui sont parfois prenants, pesants. Alors, je compte plus les moments où, à la fin de mon jour de repos, je me suis senti exaspéré. Désespéré, on pourrait dire parfois, parce que soit je suis passé à côté de ce que cette journée de repos voulait m'apporter, soit parce que j'étais pas arrivé au bout de ma liste, soit parce que j'avais pas anticipé et à la fin de la journée, je regarde en arrière, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Voilà. J'ai rien avancé. Et j'ai réalisé que la satisfaction de ce jour de repos dépendait énormément, grandement de mon organisation, de mes efforts, de ce que je voulais mettre dedans, du nombre de tâches accomplies. Un repos soumis à des règles de productivité. Ce monde. Du faire. Alors oui, quand on m'interroge sur mon ministère et mes collègues dans le ministère s'interrogent, Josué, est-ce que tu prends un jour de congé? C'est vrai que c'est dans le ministère pastoral, c'est pas toujours facile. Alors je dis oui, je prends un jour de congé. Mais est-ce que il est véritablement un jour de repos? Un jour tel que l'Écriture nous encourage à le prendre? Alors sans revenir sur la question du jour, mais voilà, j'ai réalisé que ces derniers temps, j'ai toujours besoin de revenir à ce que Dieu dit du repos, à ce que Dieu dit de laisser côté, à ce que Christ nous interpelle aussi dans ce texte pour réorienter nos regards. Alors pourquoi je dis ça? Mais le sabbat, le jour du repos, pour les Juifs, encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est un moment très important, un des symboles forts de ce peuple d'Israël. Et on le découvre au filigrane dans cette histoire, dans cette confrontation. Vous l'avez vu, il y a deux événements. Premier événement, et c'est un peu mon plan, hein. J'ai rien projeté ce matin, mais voilà, il y a deux parties. Premier point, c'est la première partie, hein, verset 23 à verset 28, où Jésus affirme son autorité sur le sabbat. Jésus affirme son autorité sur le repos. Et la deuxième partie, à partir du verset 1 du chapitre 3, Jésus démontre l'autorité qu'il a sur le sabbat. En premier point, Jésus proclame son autorité sur le sabbat. Et Jésus, vous l'avez peut-être entendu, vu, il est interpellé à cause du comportement de ses disciples. Et Jésus va répondre à la fin de cette portion, il a autorité sur le sabbat. Je suis le maître du sabbat. J'ai autorité sur ce jour de repos. Alors, on vous l'a déjà partagé hein, ces dernières semaines, on est dans la section où Marc nous rappelle que Jésus, les autorités de Jésus. On l'a vu depuis le chapitre 1. On a vu que Jésus avait l'autorité de proclamer un royaume. Il avait l'autorité d'appeler des disciples à le suivre. Il avait l'autorité d'enseigner comme personne. Il a parlé d'une manière que personne ne parlait à l'époque. Il a eu l'autorité de guérir, de chasser des démons. On l'a vu la dernière fois avec les enfants. Il avait l'autorité de pardonner les péchés. Waouh ! D'appeler des pécheurs à le suivre. Et rappelez-vous l'épisode de la semaine dernière, il avait l'autorité pour réparer les vies brisées. Je suis venu pour ceux qui sont malades, ceux qui sont pas bien portants, pour ceux qui ont besoin d'être restaurés, d'être rétablis. Et ici Jésus enchaîne et rappelle, j'ai aussi autorité sur ce jour de repos. Alors dans le contexte juif, où le sabbat est tellement important, affirmer cette « je suis le maître du sabbat », là ça... Ça interroge, ça pique, ça questionne. Et on le voit que Jésus fait cette déclaration parce qu'il y a un élément déclencheur. Et c'est vrai que quand on parle de sabbat, c'est parler aussi de la loi de Dieu. Hein, les Juifs, c'est une loi, un jour de repos, vous mettez un jour à part. Et j'ai réalisé que notre rapport en tant qu'homme avec la loi, il y a deux types d'attitudes. Soit on rejette la loi, on se dit oh, soit on veut l'appliquer, mais de manière excessive. Soit on est rebelle contre la loi, on se dit non, ça c'est pas pour moi. Soit on est légaliste et on se dit non, il faut l'appliquer comme ça, tchac. Soit on fait le contraire de ce que dit la loi, soit on en fait une contrainte. Soit on veut pas entendre, soit on l'adopte, cette loi, et on en fait même un outil pour se comparer les uns les autres. Il y a tant et tant de quantités d'exhortations dans l'écriture, et parfois on juge sa vie en fonction, bon moi je vis ça, est-ce que mon frère vit cela de cette façon-là? La loi, ça peut être un fardeau, une contrainte, un empêchement. Mais bien loin du cadeau que Dieu nous fait. Dans les deux directions, la loi de Dieu est vécue comme une chaîne, comme un fardeau. Et ici, dans le contexte juif, c'est le cas. On l'a lu, Jésus et ses disciples sont en chemin. Et dans le chemin, ils croisent un champ avec les épis qui sont mûrs. Et ils arrachent les épis pour en manger. Et au scandale, pour les pharisiens qui respectaient ce jour du repos, parce qu'on est le jour du repos, les pharisiens protestent. Les pharisiens protestent. Alors ils reprochent pas le simple fait de cueillir des épis, mais le fait de le faire le jour du repos. Ça, c'est quelque chose qui se fait pas. Si on respecte la loi de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Les disciples sont en train de faire ce qui est interdit. Ils enfreignent la loi du sabbat. Alors je l'évoquais tout à l'heure, le sabbat c'est un des 10 commandements que Dieu a donné à son peuple. Je vous lis simplement Exode, chapitre 20, verset 8 à 11. « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailles et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. » Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Voilà cette loi que Dieu a donnée, un jour spécial, le sabbat, le jour du repos. Vous l'avez vu, le repos, là, il est lié à l'acte créateur de Dieu. C'est Dieu qui a donné ce repos dans la Genèse. Et quand Dieu donne le repos pour son peuple, c'est pour le bien de son peuple, pour se reposer. Chaque jour de semaine, un jour où on se repose, on ne travaille pas, on ne sort pas dans les champs, on souffle, on se repose, on rend grâce. Jour réservé à l'adoration, au repos pour le peuple de Dieu. Et les Juifs étaient tellement, extrêmement attentifs à ce jour, que pour eux c'était une des marques d'identité d'un vrai Juif. En comparaison avec les autres nations. Qui pouvait s'agiter 7 jours sur 7, mais nous, en tant que peuple de Dieu, on s'arrête. Et c'était un jour tellement important qu'ils y ont rajouté quantité, quantité, quantité de règles pour pouvoir respecter ce jour de repos. Et alors, ils ont essayé de répondre à cette question, mais ça veut dire quoi, le travail? Comment on définit le travail? Quelles sont les activités qu'on autorise ou pas? Moissonner? Ok, pas possible. Et en fait, ils sont arrivés à des règles, et on va pas les lister ce matin, mais à des règles qui passent tous les aspects de la vie quotidienne au crible. Et ils sont allés très loin. Par exemple, les scribes, et les gens qui écrivaient, ne devaient pas porter leurs plumes pour écrire ce jour-là. Les tailleurs ne devaient pas porter leurs aiguilles, les tailleurs des habits, ne devaient pas porter les aiguilles, les étudiants ne devaient pas porter leurs livres, parce que s'ils le font, ils seront tentés de travailler le jour du sabbat. D'ailleurs, il était interdit de porter tout objet plus lourd qu'une figue séchée. Je sais pas combien ça pèse, mais c'est pas beaucoup. On ne devait pas tuer un insecte, pas allumer ni éteindre un feu, une lampe, etc. Il est interdit d'acheter, de vendre, quoi que ce soit. Tout bain était interdit, car de l'eau pouvait se répandre sur le sol et laver accidentellement ce sol. Bref. Il était même pas permis aux femmes de se regarder dans le miroir, car elles pourraient tenter d'arracher un cheveu gris. Bref. Mais vous voyez que les Juifs en ont fait un jour tellement spécial qu'ils se sont emprisonnés dans des liens, dans des contraintes, dans des interdits. Alors les pharisiens sont pas les Juifs les plus stricts. Mais ils mettaient le sabbat, le respect du sabbat, le respect de toutes ces règles au-dessus de tous les autres. Et dans ce texte, ils protestent contre les disciples de Jésus, parce que cette cueillette, hein, quelques grains, pour eux s'approchait d'une forme de moisson. Les disciples traversent le champ et grignotent un peu. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Leur souci, c'est le respect de la loi. Et on voit dans le texte que Jésus va pas les contredire, mais Jésus va même aller dire que leur conduite est justifiée au vu des circonstances. On comprend qu'ils ont faim. Et il va mettre l'accent en fait sur son identité, c'est ce que j'ai dit. Il a dit « je suis maître du sabbat ». Et pour cela, il utilise un épisode, alors tout le monde peut-être ne le connaît pas, cet épisode de l'Ancien Testament du plus grand roi des Juifs, où tout Juif était fier de ce roi, de roi David. Passage qu'on trouve dans 1 Samuel, un contexte où David est en fuite, il a déjà été choisi comme roi par Dieu, mais il est en fuite parce que le roi précédent veut le tuer, donc il est en fuite et pour sauver sa vie. Et il fait quelque chose de similaire, il va faire quelque chose qui n'est pas permis par la loi de Dieu, de manger des pains qui étaient consacrés, qui étaient réservés pour Dieu. Dans les deux cas, pour les disciples et pour David et ses compagnons, il y a une prise de nourriture. Et dans les deux cas, a priori interdit par la loi. Parce que David, seuls les prêtres avaient le droit de manger des pains. Pour les disciples, si la moisson était considérée comme un travail, et les pharisiens associaient la cueillette à la moisson, alors Jésus dit, mais si David n'a pas été condamné, pourquoi le seraient les disciples qui sont avec moi ? C'est ça l'argumentaire. Mais le lien, il est encore plus glorieux parce que c'est plus qu'une règle de la survie parce qu'ils avaient faim et qu'il fallait absolument qu'ils se nourrissent. Mais en fait, Jésus ici fait le lien entre David et lui-même. Jésus est en quelque sorte un nouveau David, ce Messie qui devait venir, ce descendant de David. Le premier David était en mission avec ses compagnons, de même Jésus et ses disciples sont en mission pour annoncer la venue du royaume. Et le parallèle va encore plus loin, David avait reçu l'onction d'être roi, mais son règne n'était pas encore établi, il était poursuivi par Saül qui voulait sa mort, son règne est contesté. De la même façon, on le voit, cette contestation envers Jésus et sa royauté qu'il est en train de proclamer est contestée. Les liens sont forts dans cet argumentaire, on pourrait développer longtemps. Et d'ailleurs, Marc va revenir constamment sur ce lien entre Jésus et David. David avait l'autorité nécessaire pour suspendre cette règle qui était réservée aux prêtres. Et Jésus dit que moi j'ai l'autorité pour suspendre cette règle qui était peut-être en place autour de ce jour de repos. Ce qui nous fait arriver à la deuxième déclaration, pour répondre aux accusations, versets 27 à 28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, le repos a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le repos. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Les règles, la loi qui a été donnée, ce jour de repos a été donné pour les hommes. Il ne dit rien d'étonnant, Parce que tous les passages qui nous parlent de ce jour de repos, c'est pour le bienfait, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour le bienfait des hommes, pour se reposer, pour souffler un coup, pour le bien de son peuple. Pendant 6 jours, tu feras un travail, mais le 7e jour, tu te reposeras. Ce jour, cette loi, elle est bonne pour son peuple. Se reposer après une longue semaine de travail. Un don de Dieu fait avec amour. Alors Jésus n'est pas en train de dire la légitimité de ce jour. Non, le sabbat, ça n'existe pas. Il n'est pas en train de dire cela. Non, c'est un jour qui a été bon pour faire du bien aux hommes. Mais les pharisiens en ont fait un jour lourd, où il fallait respecter des règles, des restrictions qui étaient dures, étouffantes. Alors Jésus en disant que, attention, le sabbat, il est fait pour l'homme, pour le bien de l'homme, non pas pour l'écraser. Mais il dit, et c'est la deuxième phase qui est étonnante, Jésus dit qu'il a autorité sur le sabbat. Je suis le Fils de l'homme qui est maître du sabbat. Il est le Seigneur même du sabbat. Autorité. J'ai l'autorité sur le sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Autrement dit, ça veut dire que j'ai l'autorité de dire ce qui constitue le respect du sabbat. Ce que cela veut dire. Qu'est-ce qu'on y met dans ce jour de repos ? La question du texte n'est pas est-ce qu'il y a une exception à la règle, allez là tiens, on peut manger quelques grains. Mais la question est qui a l'autorité sur le sabbat? Et là la réponse elle est claire, c'est Jésus. Et en fait c'est là que on rembobine un peu, c'est Dieu qui a donné ce jour de repos. C'est Dieu qui s'est reposé le jour de la création. C'est Dieu qui a gravé sur les tables de la loi de Moïse ses commandements. Respectez, prenez ce jour de repos. C'est Dieu qui instaure ce jour. Et donc dire que Jésus est le maître de ce jour, en fait on est rapide, hein. Ça veut dire que je suis Dieu. J'ai l'autorité autour de ce jour. Je suis plus qu'un enseignant. C'est direct de dire je suis maître de ce jour. Maître de ce sabbat. On reviendra après sur ce que cela peut évoquer. Et pour le démontrer, un autre jour, ils vont dans une synagogue. Ils retrouvent, et c'est la suite hein, du passage, entrent de nouveau dans la synagogue. Tiens, c'est une synagogue dans laquelle il a déjà été. Et il va authentifier par ses actes ses paroles. Il va prouver qu'il est le Fils de Dieu. Et l'évangile de Marc nous a déjà montré qu'il était maître de la vie, qu'il guérit comme il veut, qu'il pardonne les péchés comme Dieu seul pardonne les péchés. Et ici, c'est une autre déclaration qu'il est en train de démontrer. On est avec les juifs, avec les autorités religieuses qui, pour eux, le sabbat est important. Et Jésus a dit, je suis le maître de ce jour. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire pour montrer qu'il a autorité? Ben, il va faire un miracle. Mais un miracle dans une controverse. Et là, cette fois-ci, c'est plus les pharisiens qui provoquent un peu la discussion, mais c'est lui-même. Et vous le voyez au verset 2, c'est un peu le suspense. Les gens qui étaient là rassemblés observaient Jésus pour voir, hein, s'il le guérirait le 12 jours du sabbat, c'est afin de pouvoir l'accuser. Donc là, il y avait une attitude, on va voir ce qu'il va faire là maintenant. Ils sont pas là pour se dire est-ce que Jésus est capable de guérir ou pas. Pour eux, ils savent, ils l'ont déjà vu à l'œuvre, il guérit de façon surprenante, toute puissante. Mais là, il est en train de dire, on va l'observer. Qu'est-ce qu'il va faire ce jour qui est tout spécial? Leurs intentions sont claires. Ils veulent pouvoir l'accuser. Est-ce que Jésus va enfreindre les règles mises en place? Quelque part, ils sont en train de chercher des pièces à conviction contre Jésus pour pouvoir l'accuser. De l'accuser de quoi? De travailler le jour du sabbat. De ne pas être en respect à la loi de son Dieu. Alors c'est vrai que les consignes étaient assez claires à l'époque aussi sur le jour du sabbat, sur le domaine de la santé, petite parenthèse. Hein. Si la personne n'était pas en danger, vous savez, danger de vie ou de mort, portée assistante secours en personne en danger, on devait rien faire pendant le sabbat, mais attendre le lendemain. S'il y avait un petit truc, voilà. On n'est pas dans une situation urgente, on n'est pas dans une situation de vie ou de mort, ben voilà, on devait remettre au lendemain toute intervention pour faire du bien à l'autre. C'est un peu la règle. Et du coup, on voit que Jésus met au défi ses auditeurs. Jésus a lu les pensées de ses adversaires. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met le problème en plein sur la table, comme on dit. Il met la personne malade au centre. J'aurais pas voulu être cette personne avec ce bras paralysé, cette main sèche, comme il est dit certains textes, au centre. Jésus braque tous les projecteurs. Alors à l'époque, la synagogue, on n'était pas assis comme ça, hein, on était assis en cercle. On se débattait, on se regardait, on se voyait là. Et voilà, il y avait quelqu'un qui enseignait en cercle, et là il le place au centre, tout le monde le voit. Jésus braque les coups. Et il dit, est-il permis? Il est en train de rentrer dans un débat théologique. Et je vous cache pas qu'à l'époque, dans les synagogues, on aimait discuter, s'engager dans des débats, ça partait dans tous les sens. Moi je pense ça de ce texte, moi non. Voilà, on était autrement qu'aujourd'hui, on était participatif. Est-il permis? Je relis le verset 4. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? La réponse, elle est logique, hein. La manière dont Jésus tourne, il manque tellement de sagesse. Un jour de sabbat, un jour de bienfait pour l'homme, est-ce qu'on fait du bien ou du mal? Ça paraît logique, la réponse. Et qu'est-ce que font les gens? Ils gardèrent le silence. On ne trouve pas mot. Personne n'a de mots pour répondre. Pourtant, les Juifs étaient bavards pour les débats. Et on voit que Jésus est en train de dépasser ce registre de « pendant ce sabbat, on a le droit de faire ça, mais on n'a pas le droit de faire ça ». Il dépasse cette réflexion-là, il dépasse. Et on ne construit pas une piété, une vie avec Dieu sur des règles pour se sentir bien. Jésus ne dit pas « soyez moins rigide, privilégiez les personnes, gardez simplement l'esprit de la loi, l'idée de la loi ». Non, Jésus va beaucoup plus loin. Rappelez-vous, il est venu ici pour proclamer une bonne nouvelle. Le royaume est venu, une délivrance est parmi vous. Dieu fait homme. L'arrivée de Jésus, c'était les premiers passages de Marc. L'arrivée de Jésus dans ce monde change tout. C'est le moment de croire que le Messie est parmi vous, que Jésus est maître du sabbat. Et c'est vrai, le jour du sabbat, pour un juif, c'était un jour de bénédiction, un jour où Dieu déversait sa grâce, un jour de libération, le jour de la manifestation par excellence du Messie qu'ils attendaient, de ce libérateur. Et quand on prend ce cadre, Jésus va manifester qu'il est le maître du sabbat et qu'il va faire du bien. Je suis là pour faire du bien. Jésus est venu faire du bien. Tout de suite. Et pas juste demain. Il aurait pu se dire, bon, cet homme, on le guérit demain, je ne vais pas froisser les gens. Non, il est en train de dire, mais ma venue change tout, mes amis. Je suis venu maintenant pour vous faire du bien, pour vous pardonner. Parce qu'il est vraiment du question, est-il permis de faire du bien ou de faire de mal, de sauver? Il y a la question du salut, on le voit. Est-ce qu'il est permis de sauver une personne? Je suis là pour sauver les hommes. Je suis là pour faire du bien. Je suis là pour réparer ce qui est abîmé. Je suis là pour guérir les cœurs contrits. La guérison, elle est là. Je suis là pour faire du bien et non du mal. Jésus, mes amis, est venu pour sauver. Et c'est une question de vie ou de mort. Et on voit ce contraste dans ses paroles. Et je trouve quelle ironie tragique, hein, dans ce texte, parce que les pharisiens sont là, dans cette situation, pour faire du mal aux autres, pour faire du mal à cet homme qui enseigne, à Jésus-Christ. Et Jésus est là pour faire du bien. Non pas pour tuer, mais pour donner la vie. Et là, leurs intentions, en fait, éclatent en plein jour de sabbat. Les paroles de Jésus viennent percuter les faux-semblants, les religieux, ceux qui se croyaient juste devant Dieu. Vient percuter les vérités qui sont au cœur. Jésus donne ce que la loi ne peut donner. Jésus est en train de montrer qu'il est quelqu'un de plus important qu'ils ne sont prêts à l'admettre. Et comme on pouvait s'y attendre, Jésus guérit. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'il guérit simplement d'une parole, il touche même pas, on aurait pu se dire il serait allé jusqu'au bout de les secouer, il aurait pris la main, il aurait mis des bandeaux, des pansements, enfin je sais pas ce que tout ce qui un baume, là il aurait encore plus. Non, il a simplement dit une parole. Tu es guéri. Sans aucun toucher. Et là, il y a un silence coupable, hein. Il y a Jésus, il est indigné de voir l'endurcissement de leur cœur. Ils en font un jour spécial, mais leur cœur est endurci. Endurci au prochain. Endurci à faire le bien. Endurci à la voix de Dieu. Jésus change la donne. Quel meilleur jour que le sabbat pour voir le Messie faire du bien et sauver. Un jour que Dieu a donné pour être renouvelé par Dieu, pour être restauré. Voici les temps d'accomplissement. Dieu parmi nous. Et on le voit, la présence de Christ crée des tensions. Verset 6, c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Des chefs religieux, sabbat, viennent s'associer avec des Hérodiens, ça c'est plutôt un parti politique, qui est proche du pouvoir, qui est proche de Hérode, qui est proche des Romains, rien à voir de juifs. Mais le texte nous dit, s'associe, parce que Jésus-Christ dérange, parce que Jésus-Christ affirme une autorité. Une alliance se construit. Je suis venu pour faire du bien, pour sauver, et on est venu le détruire. Je terminerai par quelques pistes rapides d'application. Est-ce qu'on est des pharisiens? Est-ce qu'on est parfois des pharisiens? Qui ont vu la puissance de Dieu, la puissance de Christ, mais ils ont été attachés aux critiques. Oh, il fait pas comme ce que je pense qu'il devrait faire. Est-ce qu'on a des choses qui fait de nous des pharisiens, parfois sur notre jour de repos? Un jour de repos qui va bien, c'est un culte d'une heure et demie qui commence à 10h pile et qui arrête à 11h30. Est-ce que c'est ce que Christ veut pour notre vie? Ou est-ce que c'est ce que nous voulons? On voit dans ce texte que Jésus est un roi bienveillant, bien plus qu'on peut l'imaginer. On voit que les pharisiens avaient un attachement superficiel. Ne soyons pas comme eux, mais comme des personnes qui ont besoin d'être restaurées, besoin de Dieu, de sa grâce. Dire que Jésus est maître du sabbat, c'est pas rien de dire que Jésus est maître du repos. Alors bien sûr, ça se rajoute à toute cette panoplie qu'on a déjà vue de l'autorité de Christ, hein, qui nous interpelle. Hein. Il pardonne les péchés, il guérit les maladies, il enseigne, il dit des choses qui touchent les cœurs comme personne, etc. Et il a autorité sur ce jour de repos, sur ce jour de bienfait, sur ce jour où il veut restaurer. On l'a chanté dans différents chants tout à l'heure, où c'est un jour où Dieu répare, où Dieu restaure, où Dieu relève, où Dieu fait du bien. Est-ce que c'est Jésus qui est au centre de notre vie ou c'est la loi? C'est un peu ça, hein. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus règne sur nos vies, qu'il soit cette autorité? Ouais, moi je vois les choses comme ça. Parfois on est beaucoup plus tordu encore que les pharisiens, je pense. Et pour cela, on a besoin que Christ nous éclaire. Et Jésus ici élargit bien sûr toute la question de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis. Parce qu'en fait, il va au-delà des règles. Jésus veut devenir notre sabbat, ce repos, ce shalom de Dieu, comme disent les Juifs, ce repos. Et on entre dans cette vie nouvelle, je suis venu pour sauver, pour vous restaurer. C'est ça le vrai repos, c'est d'être entre les mains de Christ. Profitons de ce repos que Dieu nous accorde. Ce repos est pour notre bien, pour nous rafraîchir. Et je crois que c'est vrai, nous, en tant que chrétiens, on fait le dimanche, le jour de repos, notamment aussi, mais c'est un jour pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Confiant que Dieu donne le sixième jour, la manne, pour deux jours. Confiant que Dieu fera rattraper le temps perdu de cette journée, les six autres jours. Et en même temps, cette guérison de cet homme montre qu'un jour nous serons tous guéris, nous serons tous dans ce repos céleste, parce que Christ est une grâce qui libère. C'est ça le vrai repos. Libère. Et nous y goûtons déjà. Il est venu donner la vie. Jésus est venu faire du bien et nous sauver. Jésus donne ce que la loi, ce que les règles ne peuvent pas donner, un vrai repos. Et quelque part aussi, encore une dernière application, soyons pas surpris que face à Jésus, il y a l'opposition. Ça a dérangé déjà à l'époque. Et Jésus l'a annoncé, ça dérangera encore. Voilà, je vous propose de nous arrêter et de simplement nous incliner.